Où vivrons-nous demain ? Par Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité qui est l'énergie. Vous me direz que c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Mais la fermeture de la centrale de Fessenheim fait partie du débat aujourd'hui que l'on a retrouvé dans pas mal de journaux et aussi de commentaires télévisés et radio. C'est une décision assez surprenante du gouvernement de fermer cette centrale qui correspond à un vœu de une décision de François Hollande qui avait été motivée par des motifs qui étaient beaucoup plus électoralistes et d'alliance politique que d'une véritable réflexion sur le sujet, qui est un sujet très important puisqu'il y touche au futur de l'énergie de notre pays, qui pose le problème de l'indépendance énergétique, qui est un sujet vital pour nos économies. Et personnellement, je trouve que cela a été traité avec beaucoup de légèreté pour satisfaire, au moment, avant les municipales, l'écologisme. Je ne dirais pas l'écologie, mais je dis et je distingue, vous le savez, l'écologisme, c'est-à-dire une version politisée et des faits beaucoup plus d'intrigue que l'écologie, qui est un sujet extrêmement sérieux. Donc, pour revenir à cette fermeture de centrale qui me paraît être absurde, on se pose la question de comment va-t-on fabriquer l'électricité dans les régions de l'Alsace, de la Lorraine, et est-ce qu'on va dépendre des centrales de charbon allemandes, ce qui va à l'encontre de l'effectif du projet initial de réduire les émissions de CO2. Mais ce qui me semble beaucoup plus important, c'est justement cette procédure par rapport à notre patrimoine énergétique qui est essentiellement lié à la fission nucléaire. Alors peut-être que là aussi, on est sur un problème sémantique. Vous savez que, justement, l'écologie politique adore les formules et est très friande des mots forts qui peuvent aller dans le sens qui est le leur, mais également pour aussi attaquer ce qui ne correspond pas sur un plan idéologique. On a eu l'exemple, par exemple, avec les OGM, et là il y avait une erreur totale sur un plan communication. On avait parlé justement de procédés scientifiques sur lesquels la France est en avance, qui sont des hybridations, mais faites d'une manière scientifiquement et non plus d'une manière empirique. Et on a introduit le mot génétique. Et le mot génétique, évidemment, ça renvoie aux expériences nazies sur la génétique. Enfin, c'est un mot qui est connoté négativement, mais là, effectivement, c'est se tirer une balle dans le pied en ayant appelé cela OGM. Et effectivement, ça a été un grand débat pendant des années où on a fauché les expérimentations de l'INRA. Bon, ça a été quelque chose d'assez stupide. Mais on a aussi, de notre côté, dans les solutions qui sont proposées par l'écologie, on est dans le symbolique inverse, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le négatif, mais on est dans la proposition. Et c'est vrai que les énergies dites alternatives, qui sont renouvelables, renvoient à au vent renvoie au soleil, et quand on parle de l'éolienne, on parle de Éole, le dieu de la mythologie grecque. Donc tout ça est enrobé de choses positives. Et on appelle par exemple ces immenses et à mon sens horribles mâts que l'on trouve qui défigurent nos paysages, on appelle cela ferme d'éoliennes, le mot ferme étant bien doux. Et évidemment, on aurait pu aussi appeler les centrales nucléaires des fermes nucléaires, ou encore trouver notre mot que nucléaire, qui évidemment renvoie à l'atome, aux bombes atomiques. On aurait pu parler de, je ne sais pas, on aurait pu appeler les fermes Marie Curie, ou je ne sais pas, peut-être Bikini, qui était l'île où on a fait la première bande sur le Pacifique. Ou simplement, on aurait pu appeler ça aussi énergie pacifique. Et donc, ces relations par rapport à l'opinion, évidemment, sont assez importantes, et c'est assez grave que des décisions politiques d'une aussi grande importance n'aient pas fait l'objet d'un débat, et surtout d'un débat avec les scientifiques et les gens qui sont les spécialistes dans ces domaines. Alors, je vais en venir au bâtiment parce que c'est le but de notre émission et la thématique générale. Et le bâtiment a été et est stigmatisé d'une manière qui est assez curieuse parce qu'il est considéré comme la principale source de consommation de l'énergie consommée en France. On donne le chiffre 44% et on dit le secteur bâtiment est celui qui consomme l'énergie en France, bien devant, par exemple, les transports qui ne consomment. Alors, j'aime beaucoup les 31,3. Ça, c'est les chiffres officiels qui sont donnés quand on est sur des décimales. Mais enfin, bon, paraît-il que ces précisions chiffrées font très sérieux. Alors, ces 44%, effectivement, ça stigmatise le secteur bâtiment. Ça stigmatise les entreprises, ça stigmatise les architectes, ça stigmatise les habitants, puisque avec votre maison, vous vous rendez compte, la moitié de l'énergie qui va être consommée par les bâtiments. Et donc, par rapport à cela, on ne se contente pas de stigmatiser, mais on a évidemment tous les programmes municipaux, par exemple, reprennent cela. On doit rénover massivement et avoir des normes encore plus strictes sur les bâtiments neufs, comme si ce n'était pas suffisant. Alors, je voudrais faire une petite réflexion par rapport à cela. D'abord, je voudrais revenir en 2007, au moment où on a fait le Grenelle de l'environnement. Le ministre était Jean-Louis Bourleau et il avait commandé un rapport à un ingénieur, mais un ingénieur important de la hiérarchie de l'administration française, qui était l'ingénieur général des ponts et chaussées, polytechnicien bien sûr, Monsieur Laplace. Et ce rapport a été diffusé ensuite dans la documentation française, que personne ne lit, et il faut être très curieux pour aller le chercher, mais il a été, on peut dire, par rapport au Grenelle de l'environnement, il a été mis au placard. Ce qui arrive souvent dans les rapports quand ils dérangent l'idéologie dominante. Alors, la question c'est, que disait le rapport de Monsieur Laplace ? Eh bien, M. Laplace avait fait un rapport sur la consommation de l'énergie en France par le bâtiment et avec les sources qui étaient disponibles. Donc, c'était par exemple la consommation électrique et de savoir des différents postes qui utilisaient l'électricité. Alors, il n'y avait pas le fameux compteur Linky à cette époque, et simplement, Laplace disait, que EDF était incapable de donner la répartition qu'il y avait entre la consommation du chauffage, la consommation de la climatisation et la consommation des appareils ménagers, la consommation des appareils industriels, et que tout cela était mêlé et qu'on avait simplement la consommation électrique. Alors, je vais poser la question et on va pouvoir le développer dans la deuxième partie. Est-ce qu'un bâtiment consomme de l'énergie? Ça veut dire que vous avez une maison de campagne, vous n'y allez pas. Est-ce que la maison consomme de l'énergie? La réponse est non. La maison ne consomme rien. Les bâtiments ne consomment rien. Qui c'est qui consomme? C'est vous et nous. C'est les gens qui consomment, mais les bâtiments ne consomment pas. Et quand on parle de la consommation du bâtiment, c'est quoi la consommation? Le chauffage. Alors on va surisoler, isoler, on a des normes, on a des programmes d'isolation à 1 euro, des choses fantastiques, des réglementations incroyables, on va couvrir les immeubles d'isolation qui vont poser des problèmes dans les années qui viennent, au nom de quelque chose qui est totalement faux. Et tout le monde peut le comprendre. Les bâtiments ne consomme rien. Alors, la consommation des gens, elle est diverse. Dans une maison, vous avez le matin le rasoir électrique, le petit déjeuner, et puis il y a tous les appareils électroménagers, et là je parle de l'habitat. Mais dans les usines, les bureaux, les commerces, c'est des machines-outils. Et la consommation, elle n'est pas comptabilisée. Donc, on a dans ce poste de consommation, toute l'énergie de l'industrie, et aujourd'hui d'ailleurs les voitures électriques, qui ne sont pas non plus comptabilisées, qui sont impactées et on rend responsable l'architecture. Alors, on va marquer une petite pause musicale et on va écouter Domenico Scarlatti, une sonate. Oui, c'était donc Domenico Scarlatti, une sonate au clavecin. Donc il y a toute une série de 345 sonates. Et justement, puisqu'on parle d'énergie et d'économie d'énergie, là vous voyez, il n'y a qu'un instrument et on est dans la modération. Et ça n'empêche pas le génie de cette musique qui est la musique des anges. Bien, je reviens au sujet qui est grave et sérieux, celui de l'énergie. Alors en fait, on en était à ces rénovations massives. Donc le Grenelle de l'environnement, comme je vous disais, il a mis le rapport Laplace qui simplement avait comme d'une part son analyse, c'était de dire que on ne pouvait pas chiffrer le rapport qu'il y avait au bâtiment et à l'énergie. Et dans ses conseils, il disait que on avait, on peut dire, il y a 30 ans, quand on n'isolait pas du tout les bâtiments, il y avait eu les premières réglementations et on avait les doubles cloisons et ça avait effectivement fait chuter l'isolation avec aussi les fenêtres, etc. Et que lui préconisait qu'on ne renforce pas la réglementation. Mais par contre, c'était son objectif, c'était de changer les appareils mécaniques, par exemple tous les moteurs un peu anciens de machines à laver, de chaufferie, etc. Il disait que c'était la dépense d'énergie inutile et que cela devait être aidé par l'État et que on avait des effets positif puisque on relançait l'économie dans différents secteurs industriels. Tandis que là, ça profite effectivement à l'industrie d'isolation qui est un monopole de Saint-Gobain. Et quand on regarde la liste des participants, quand on est un peu curieux comme moi, et on se rend compte que parmi les panels et les personnalités choisies dans le Grenelle environnement, il y a effectivement les dirigeants de Saint-Gobain, ce qui est quand même un peu curieux. Donc on a, je crois, privilégié, et tout le monde s'est engouffré dans cette brèche, c'est isolons, isolons, isolons. Donc aujourd'hui, c'est l'ADEME, qui est l'Office des économies d'énergie, qui est un organisme d'État qui a fait des campagnes où il faut à la fois, c'était une très curieuse campagne où on voyait un bâtiment avec, vous vous souvenez de ça, il y avait une sorte d'habillage en laine, et puis dessous, alors le slogan je crois, c'était « il faut faire habiter, ça chauffe ». Ce qui est, vous avouerez, un peu paradoxal. C'est-à-dire, il fallait isoler les maisons parce que ça chauffait. Donc, alors, on vous expliquera, mais oui, mais le réchauffement climatique, il faut surisoler les maisons. Alors, le lien au niveau de l'énergie est clair. Économisons de l'énergie, c'est une bonne chose pour un pays. Mais on voit pas très bien ce lien, si ce n'est l'émission du CO2. Enfin, c'est une équation tellement compliquée que plus personne ne la démontre et on l'accepte comme une évidence. Et là, c'est quand même très curieux. Ça rejoint ce que je disais dans les premières émissions, c'est que nous sommes dans une époque la plus informée et nous sommes dans une époque, je ne sais pas comment dire, mais je pense la plus imbécile, puisqu'en fait, plus personne ne demande les démonstrations. Il suffit qu'on l'affirme et ce qui est répété devient une vérité. Donc, pour revenir à l'architecture, ces surisolations posent des problèmes. Ça pose des problèmes de coût, c'est-à-dire ça augmente le coût des bâtiments. Et je me souviens tout à fait que Monsieur Bourleau, à la fin du Grenelle, disait de toute façon, c'est infime le coût de l'isolation, c'est de 10 à 15%. Alors Monsieur Bourleau, il est bien gentil, mais c'est un milliardaire et pour lui, 10 à 15% de l'augmentation du bâtiment, pour lui, c'est rien. Simplement, le 10 à 15%, c'est l'accès pour des classes moyennes ou le non-accès à des logements. C'est pour des logements HLM, l'impossibilité de conclure des opérations. C'est aussi ce qui s'est passé, c'est que comme on a eu ces surcoûts organisées par ces réglementations imbéciles, ben on a, qu'est-ce que l'on a fait ? On a rogné sur la qualité, on a rogné sur la surface. Donc aujourd'hui, les normes de logement, on a les fameuses cuisines dites américaines qui évidemment ne le sont pas du tout, où on supprime la cuisine que l'on remplace par un comptoir, et ainsi de suite, on supprime des parties, les dépendances, etc. Donc tout cela se fait au détriment de la vie des gens, et je pense qu'il y a même des tensions familiales qui sont dues à ces appartements qui sont trop petits et qui sont en dessous des normes de ce qui se faisait dans l'après-guerre, au moment de la reconstruction. Donc tout ça n'est pas très positif, et le gain aussi n'est pas extraordinaire. Par exemple, on sait très bien qu'une chose importante, et là je parle en tant que professionnel, c'est l'isolation de la toiture quand on a une maison, parce que la chaleur monte, et je crois que c'est tout le monde le sait. Par contre, l'isolation des fenêtres, qui est une source de profit très importante pour les marchands de fenêtres et les personnes qui les aident à vendre les fenêtres, les gens qui investissent des sommes très importantes, qui vont être de 20 000 euros pour des changements de fenêtres, ils se rendent compte que leur facture n'a pas bougé parce que c'est une escroquerie et qu'il suffit effectivement de jointer les portes et les fenêtres, parce que une maison, c'est pas une bouteille thermos, et que une maison, c'est quelque chose qui vit, enfin pas la maison, mais les habitants vivent et ouvrent, vont, rentrent, les enfants, on aère, on ferme, et que les normes qui sont données sont des normes évidemment statiques et qui n'ont pas de valeur dans la vie réelle. Donc tout cela me paraît être une belle imposture, et non, entendez-moi, je ne suis pas pour dire il ne faut pas isoler les maisons. Simplement, cette isolation par l'extérieur aujourd'hui, qui devient obligatoire sur les bâtiments neufs, pose des vrais problèmes, parce que les parties fragiles sont à l'extérieur, et de toujours, les bâtiments, ils sont fragiles à l'intérieur. On a des revêtements de bois, de plâtre, et à l'extérieur, c'est de la brique, de la pierre, des matériaux durs. Et là, on fait l'inverse, on met des éléments fragiles qui sont des mousses, des laines de verre avec une peau qui va être en bois, en carreau, mais en tout cas des choses fragiles. L'isolation se dégradera rapidement parce qu'elle sera soumise aux intempéries et n'est pas étanche. Et la surface de protection de l'isolation qui n'est plus structurelle, c'est-à-dire que je m'explique, le bâtiment solide, il est à la fois structurel, c'est-à-dire que ce soit en béton, en brique ou en pierre, ça tient le bâtiment, et en même temps, ça assure la protection sur l'extérieur. Bon, c'est vieux comme le monde. Et donc, cette protection du dur étant enlevée, ben on aura, et on l'a déjà d'ailleurs, des sinistres très importants. Et je crois que la rénovation qui avait attendu 30 ans des bâtiments neufs, je crois que ça va être beaucoup plus rapide, et on risque d'avoir aussi des graves accidents avec des éléments qui se décrochent, etc. Donc tout ça est fait dans une pression politique, c'est fait dans n'importe quel ordre, les professionnels n'ont pas le droit à la parole, ou alors ils sont pris dans la surenchère générale, et on ne peut pas s'opposer quand il y a tout le monde qui est à dire ses paroles, et il y a très peu d'architectes qui tiennent mon propos, je suis pas le seul, heureusement. Voilà. Donc, il y a aussi des problèmes esthétiques. Et alors, la pire des choses, c'est notamment une circulaire, je crois que c'était Ségolène Royal, qui l'avait fait passer, où il fallait aussi isoler les bâtiments anciens. par l'extérieur. Alors ça, c'est monstrueux et je n'ose y penser. Il y a eu quelques exemples de faits qui sont des catastrophes, mais on a à Toulouse, par exemple, des bâtiments très intéressants qui sont à la Sépierre par l'architecte qui est décédé actuellement, qui s'appelait Bernard Bachelot, et ces bâtiments qui étaient dans en béton, qui étaient rainurés et cassés, que l'on voyait sur la rocade, bah, ils ont été habillés et espèce de peau jaune et au nom de l'isolation, et je pense qu'on aurait pu trouver d'autres solutions. Donc on a tout un patrimoine d'architecture moderne qui est actuellement sacrifié pour ses besoins et les sources d'énergie que l'on a, on peut dire, extrêmement bon marché en France, ben, on éteint la centrale de Fessenheim. Voilà, donc tout ça est assez négatif, assez triste. Et je vous rappelle aussi les promesses, par exemple, que faisait Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, qui disait que en 2020, nous y sommes, la France aura tous ses bâtiments en énergie positive. Ça voulait dire, et on continue à parler de ça, même au niveau de la région Occitanie, qu'on va avoir des bâtiments qui vont générer de l'énergie. Alors, au lieu d'en perdre, on va générer de l'énergie. Alors là, on n'est plus dans l'histoire des trois petits cochons dont je vous parlais, mais on est vraiment dans les contes de fées, de penser que tout seul, ces bâtiments qui consommaient 44% soi-disant de l'énergie, eh ben, tout d'un coup, ils vont nous amener toute l'énergie disponible. On ne sait pas comment, mais je pense qu'on va là aussi couvrir nos territoires d'éoliennes et nos toits et nos façades de grands panneaux made in China, noirs et solaires, les jours de soleil et les jours de vent. Nous demain. Merci à Hugo qui officiait la technique, puis à Guido qui officiait à la console administrative. Vous retrouverez le podcast de l'émission sur Esprit Occitanie, www.esprit.fr, et le téléchargement de l'application smartphone. Bonne journée à tous et à toutes pour un nouveau numéro de Où vivrons-nous demain ?